Alors bonjour, bienvenue à cette émission de contes. Nous sommes présentement au BIC, au Québec. Je m'appelle Thomas, je suis en compagnie de...
Ruilly.
Et nous sommes enchantés de présenter trois contes aujourd'hui.
Le premier conte, c'est La cinq fois belle. Alors... Vous connaissez tous, j'en suis sûre, l'histoire de Blanche-Neige et des sept nains. Cette histoire nous vient d'Allemagne, où elle fut recueillie, il y a plus de 100 ans, avec beaucoup d'autres, par deux messieurs allemands. Très savants, très gentils, qui s'appelaient les frères Grimm. Mais cette même histoire se raconte également dans bien d'autres pays, avec beaucoup de détails qui changent suivant le climat, le genre de vie, les habitudes, les usages. Je vais vous la raconter comme on la raconte en Grèce. Cela vous amusera peut-être de comparer le conte grec avec le conte allemand et de noter leurs ressemblances, leurs différences. Voici donc l'histoire de la cinq fois belle. Il était une fois, dans un village de montagne, trois sœurs qui n'avaient plus de parents et qui vivaient ensemble. La première était belle, la deuxième était belle, mais la troisième, la plus petite, était encore la plus belle. C'est pourquoi, dans le pays, on l'appelait la cinq fois belle. Or, un jour, qu'elle faisait la cuisine pour ses deux aînés, la cinq fois belle les entendit se disputer. « C'est moi la plus belle !» disait l'une. « Non, c'est moi !» disait l'autre. « Ne vous disputez pas !» leur dit la petite sœur. « Et demandons au soleil ce qu'il en pense. » Excellente idée. Les trois filles sortent de la maison, vont se planter au beau milieu de la place du village, dans un endroit sans ombre, et se mettent à chanter ensemble. « Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous ?» Le soleil de là-haut les voit, les entend, et il répond immédiatement.
« La première est belle, la deuxième est belle, mais la troisième, la plus petite, est encore la plus belle. »
« Qu'est-ce qu'il dit ?» demande la sœur aînée. « Des bêtises !» répond la deuxième. « D'ailleurs, il ne peut pas bien voir. Il y a de la brume ce matin. Nous reviendrons demain. » Et toutes les trois rentrent chez elles. Le lendemain, quand elles sortent, il n'y a pas de brume. Vite, elles retournent sur la place. « Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous ?»«
La première, dit le soleil, est belle. La deuxième est belle. Mais la troisième, la plus petite, est encore la plus belle. »
« Il est complètement fou ce soleil, dit la grande sœur. Il n'a pas bien regardé, dit la deuxième. Tu n'as pas vu le petit nuage qu'il a sur l'œil ? » Et elle s'en retourne. Le troisième jour, enfin, quand elles reviennent sur la place, le temps est magnifique et il n'y a pas un nuage. « Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous ?» Mais le soleil répond toujours.
« La première est belle, la deuxième est belle, mais la troisième, la plus petite, est encore la plus belle. »
Cette fois, il n'y a plus deux autres. Les deux grandes sœurs sont furieuses. Elles disent à la petite, « Va-t'en où tu voudras. Tu es moche, tu es laide, tu es méchante et vilaine. Nous ne voulons plus de toi ici. » La pauvre cinq fois belle s'en va. Elle quitte le village, elle gagne la montagne, elle marche tout le jour, elle a soif, elle a faim, elle est bien fatiguée. Plus tard, quand la nuit tombe, elle a froid, elle est seule, elle a peur. À force de marcher, enfin, elle trouve une petite maison. Elle frappe, ça ne répond pas. Elle ouvre la porte, personne. Elle entre, toujours personne. Elle appelle. « Hola, il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Elle passe une seconde porte et se retrouve dans la salle à manger, avec une grande table servie et 12 chaises. Mais l'une de ces chaises est plus petite que les autres. Devant chacune, il y a un couvert, mis une assiette garnie et un verre d'eau fraîche. Mais devant la petite chaise, il y a une petite assiette. Et le verre est plus petit lui aussi. La cinq fois belle n'a rien bu ni mangé de la journée. Mais comme elle est bien élevée, elle voudrait bien ne pas se servir avant d'y être invitée. Elle appelle encore une fois, deux fois. À la fin, elle s'assise sur la petite chaise, mange tout ce qu'il y a dans la petite assiette et boit toute l'eau du petit verre. Après ça, elle se lève et elle monte l'escalier. À l'étage, elle trouve une grande chambre avec 12 lits. Tous pareils, à l'exception de l'avant-dernier, qui est nettement plus petit que les autres. Comme elle n'est pas bien grande elle non plus, elle s'y couche et s'endort. À peine s'est-elle endormie que 12 personnages entrent dans la maison. Ce sont les 12 mois de l'année. Trois d'entre eux sont très gais, tous habillés de vert et couronnés de fleurs. Trois autres sont légèrement vêtus, avec des vêtements flottants. Les trois suivants sont les plus mélancoliques. Ils sont habillés de jaune, d'ocre et de marron, et portent des manteaux de pluie. Les trois derniers, enfin, sont chaudement recouverts, silencieux et tristes. L'un d'eux, qui est plus petit que les autres, se déplace en traînant la jambe. C'est le mois de février, que l'on appelle en Grèce Koutsouflevaros, c'est-à-dire février le boiteux. Il n'a que 28 jours, 29, une fois tous les 4 ans, et il est constamment de mauvaise humeur. Tout de suite, en entrant, il s'écrie
« Qui a dérangé ma chaise ?»
Puis tout de suite après
« Qui a mangé ma part ?»
Et ensuite
« Qui a bu à mon verre ?»
Ses grands frères, cependant, mettent à table, mangent à leur faim, vident leur verre et se moquent de lui. Le repas fini, les 12 mois vont se coucher. Mais à peine montés dans leur chambre, on entend de nouveau février le boiteux.
Qui s'est couché dans mon lit ?
Alors la 5 fois belle se réveille. En voyant les 12 mois qui l'entourent, elle est très effrayée. Pourtant, comme elle n'est pas timide, elle les salue bien poliment, s'excuse, s'explique et leur raconte son histoire. Les 12 mois l'écoutent, puis ils parlent entre eux, à l'écart, et les 11 plus grands des ensembles.
Nous n'avons pas besoin d'une fille.
Nous avons toujours vécu seuls, entre frères, qu'on la chasse d'ici. Mais Février, qui n'a rien dit, demande la parole.
Mes chers frères, leur dit-il aigrement, je sais bien que je suis le plus petit, que je boite et que j'ai un sale caractère. Mais enfin, cette maison est la nôtre, et j'ai peut-être le droit de parler moi aussi.
Certainement, disent les autres. Tu as le droit de parler comme nous. Parle donc.
Eh bien, dit Février, j'ai à vous dire tout simplement que cette fille est ma sœur, que ça vous plaise ou non. Elle s'est assise sur ma chaise, elle a mangé ma part, elle a bu l'eau de mon verre et elle s'est couchée dans mon lit. Si quelqu'un doit le trouver mauvais, c'est moi d'abord, il me semble. Or, non seulement je ne le trouve pas mauvais, mais je prétends qu'elle continue, d'un bout de l'année à l'autre, à faire de même, et elle continuera de le faire. Et le premier qui lui dira un mot désagréable, il aura affaire à moi.
En entendant ces mots, les 11 mois éclatent de rire. Eh bien, c'est entendu, Février le boiteux. Vis avec elle comme frère et sœur. Elle fera le ménage, la cuisine, elle boira et elle boira quand elle aura soif, mangera à notre table et se couchera sous notre toit. Ainsi est fait. Les 12 mois fabriquent un petit lit, une petite chaise. Ils achètent à la ville un nouveau petit verre, une petite assiette. La 5 fois belle vit avec eux, fait le ménage, la cuisine, les accueille chaque soir quand ils rentrent, devient leur petite sœur à tous. Mais celui qu'elle préfère, c'est Février le boiteux, malgré son air chagrin et sa mauvaise humeur. Cependant, au village, les deux sœurs sont heureuses. La petite n'étant plus avec elle, elles se croient les plus belles du pays. Au fait, s'écrie l'aînée, nous ne savons toujours pas quelle est la plus belle de nous deux. C'est vrai, dit la cadette. Eh bien, demain nous irons le demander au soleil. Le lendemain, une fois de plus, elle se campe sur la place du village et elle se met à chanter. Soleil, soleil, toi qui vas tout, quelle est la plus belle d'entre nous? Mais cette fois le soleil répond.
Plus loin que les prés, que les bois, dans la maison des 12 mois, vit la plus belle de vous trois.
Qu'est-ce que ça veut dire? Demande l'aîné. Cela veut dire, dit la cadette, que notre sœur, la 5 fois belle, ce laideron, ce pruneau, cette petite peste, a été recueillie par les 12 mois de l'année, qu'elle vit avec eux et qu'elle est toujours plus belle que nous, du moins, et ce que prétend cet imbécile de soleil. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la tuer, pardi. Et comment ça la tuer? Viens avec moi, j'ai une idée. Elles rentrent toutes les deux dans leur petite maison, s'enferment dans la cuisine et elles préparent un beau gâteau empoisonné. Maintenant, dit la cadette, va le porter tout de suite à notre petite sœur. Et attention surtout, n'en mange pas en route. L'aînée prend le gâteau, elle part, elle va, et elle arrive enfin devant la maison des 12 mois. Comme elle s'en approche, elle voit apparaître un bonhomme tout gris en manteau de fourrure qui boitille en marchant et n'a pas l'air commode. Il lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle répond aussitôt « Je suis la sœur aînée de la cinq fois belle et je viens lui porter ce beau gâteau empoisonné. »
« En ce cas ?»
dit Février, car c'est lui.
« En ce cas, mange-le toi-même et qu'il t'étouffe. »
« Alors ?» demande la seconde sœur quand l'aînée rentre à la maison. « Ma foi, je n'y comprends rien. Je n'ai pas pu voir notre petite sœur. Un méchant boiteux m'a chassé. Qu'est-ce que tu lui as dit ?»«
Je lui ai dit, bien poliment, je suis la sœur aînée de la cinq fois belle et je viens lui porter ce beau gâteau empoisonné. »
« Gourde, imbécile, idiote, ce n'est pas ce qu'il fallait dire.
Qu'est-ce qu'il fallait dire ?
Il fallait dire, ma sœur et moi, nous regrettons d'avoir chassé la cinq fois belle, et pour qu'elle nous pardonne, nous lui offrons ce beau gâteau que nous avons fait pour elle de nos propres mains.
Alors tout est à refaire ?
Eh oui, tout est à refaire. »
Et les deux sœurs retournent à leur cuisine. Cette fois, elles prennent une belle pomme rouge et la trempent dans le poison. Longtemps, longtemps, longtemps.
Maintenant, dit la plus jeune, tu vas prendre cette pomme et retourner chez les 12 mois. Surtout, ne t'avise pas d'y mordre. Elle est empoisonnée. Et tâche de ne plus dire de bêtises.
L'aînée repart. Elle marche, mais à peine arrivée devant la petite maison, elle se retrouve nez à nez avec Février le boiteux.
Encore ? Qu'est-ce que tu veux ?
Et la grande sœur répond. « Je viens voir la cinq fois belle. Ma sœur et moi, nous regrettons de l'avoir chassée. Et pour nous faire pardonner, nous lui offrons cette belle pomme empoisonnée que nous avons préparée pour elle de nos propres mains. »
« Mangez-la, toutes les deux, et crevez !» dit Février avec colère.
« Alors ?» demande la cadette à l'aînée de retour. « Je comprends de moins en moins. Le boiteux m'a encore chassée. Qu'est-ce que tu lui as dit ?»
Je lui ai dit, comme tu m'avais dit, que nous regrettions d'avoir chassé la cinq fois belle et que, pour nous faire pardonner, nous lui faisions ce cadeau d'une belle pomme empoisonnée.
En entendant ces mots, la jeune sœur se prend la tête à deux mains.
Non, décidément, tu es trop bête. La prochaine fois, j'irai moi-même. Mais comme elle se méfie de Février le boiteux, elle prépare soigneusement son cou. Elle se noircit le visage, elle se déguise, elle se vieillit et s'en les dit. Puis, elle emplit une grande boîte de bagues empoisonnées, de colliers empoisonnés, de peignes empoisonnés, de foulards empoisonnés, de mouchoirs empoisonnés, de bracelets empoisonnés, de boucles d'oreilles empoisonnées. Il y a là de quoi tuer toutes les dames du pays. La boîte, une fois pleine, elle la referme soigneusement, l'emporte sous son bras et se rend à son tour chez les 12 mois de l'année.
« Qui es-tu ? Que veux-tu ? »
demande Février le boiteux. La sœur cadette répond hypocritement. « Je suis une pauvre colporteuse. J'ai dans ma boîte des mouchoirs, des foulards de tête, des bracelets, des bijoux. Achète-moi quelque chose, mon bon monsieur, pour l'offrir à ta bonne amie. » Cette fois, Février ne se doute de rien. Il se dit.
« Tiens, c'est une bonne idée.
Si
j'achetais un cadeau pour ma petite sœur. »
Et il achète un beau foulard de tête empoisonné, avec de petites pièces d'or conçues tout autour et empoisonnées elles aussi. Le lendemain matin, les deux méchantes sœurs reviennent se camper sur la plage du village. « Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre nous ?» Le soleil, cette fois, lui répond.
« C'est la cinq fois belle qui serait la plus belle si elle était encore en vie. Hélas, elle est morte. Les 12 mois l'emportent et vont l'enterrer cette nuit. »«
Chic alors !» s'écrient les deux sœurs. Elles vont alors déjeuner toutes contentes. Or, le roi du pays avait un jeune fils, un prince beau comme le jour, avec des yeux noirs comme la nuit et des sourcils comme la plume du corbeau. Et ce prince, un beau soir, fit un rêve. Une vieille fée lui apparut dans son sommeil et lui dit « N'épouse aucune femme, si or qu'elle te plaise, avant d'avoir vu le tombeau de la cinq fois belle. Si tu mariais avant de l'avoir vu, tu le regretterais amèrement. » Le lendemain matin, le jeune homme va voir le roi, son père.
« Dis-moi, père, où est le tombeau de la cinq fois belle ?»«
Jamais entendu parler de ça, » répond le roi. Il va trouver sa mère.
« Dis-moi, mère, où est le tombeau de la cinq fois belle ?»«
Je ne sais pas de quoi tu veux parler, mon fils, » répond la reine. Alors, le jeune prince s'interroge tour à tour l'aumônier de la cour, le médecin de la cour, le premier ministre et puis le grand chambellan. Le grand veneur, le sommelier, les domestiques, et puis le garçon d'écurie, les fileuses, les laveuses et les tiers. Enfin, une gardeuse d'oie lui donne un bon conseil. « Et si tu demandais au soleil qui voit tout ?»«
C'est une idée, »
dit le prince. Ils partent toutes seules dans la forêt, trouvent une clairière ensoleillée. Soleil, soleil, toi qui vois tout, peux-tu me dire où est le tombeau de la cinq fois belle ?
Hélas, non, répond le soleil. Je ne vois que ce qui se passe le jour, et les 12 mois l'ont enterré pendant la nuit. Mais si tu demandais à ma petite sœur la lune...
Merci, soleil, pour ton bon conseil. La nuit suivante, le jeune prince retourne à la clairière et il appelle. Lune, toi qui vois tout, la nuit, peux-tu me dire où est le tombeau de la cinq fois belle ? Et la lune lui répond.
Hélas, non. J'ai vu seulement les 12 mois qui l'emportaient dans un cercueil de verre. Ils sont allés loin, loin dans la montagne et se sont enfoncés dans une sombre forêt. Où ils l'ont enterré, je ne saurais te le dire, car je ne vois pas sous les arbres. Mais si tu demandais à mon frère le vent...
Lune qui voit la nuit, merci pour ton avis, dit le prince. Et il attend maintenant que le vent se lève. Les jours passent, les semaines, puis les mois. Pas un souffle. Pendant ce temps, on lui propose d'épouser une quantité de princesses. Toutes jeunes, toutes jolies, pour la plupart très riches et bien apparentées. Mais il tient bon. Il les refuse les unes après les autres. Il ne veut pas se fiancer avant d'avoir vu le tombeau de la cinq fois belle. Un beau matin, enfin, quand il se lève, le vent souffle. Vite, le jeune prince s'habille, vite, il court dans le parc, jusqu'à l'endroit le plus turbulent. Tout en retenant à deux mains son manteau qui veut s'envoler, il s'écrie « Vent !»«
Toi qui vas partout, peux-tu me dire où est le tombeau de la cinq fois belle ?»«
Je peux, » répond le vent.
« Alors dis-le-moi vite, j'y vais !»«
Monte à cheval et je t'y pousserai. » Le prince va chercher son cheval, il le selle, il le sort de la cour. À peine l'a-t-il enfourché que, poussé par le vent, le cheval court, galope. Galope pendant des heures, il traverse la ville, puis les champs, puis la plaine, la montagne, pour s'enfoncer enfin dans une sombre forêt. Une fois là, il court encore, longtemps, longtemps, jusqu'à l'entrée d'une grotte. Alors seulement, le vent tombe. Le cheval s'arrête. À bout de souffle, et il se fait un grand silence. Le prince met pied à terre, pénètre dans la grotte. Il y fait noir, très noir. Au bout de quelques secondes, pourtant, il aperçoit une lueur et un petit courant d'air le pose de ce côté. Il marche, il obéit et il arrive enfin dans une grande salle. Au milieu de cette salle, faiblement éclairée par 4 torches, est exposé un cercueil de verre sans couvercle. Dans ce cercueil est étendue une jeune fille d'une merveilleuse beauté. Le jeune homme n'en a jamais vu de pareil. Assis près du cercueil, enfoui dans un manteau de fourrure, un petit bonhomme pleure. Un petit bonhomme tout gris, à l'air boudeur et triste. Quand il entend le prince, il relève la tête.
Qui es-tu, toi ? Qu'est-ce que tu veux ?
Excusez-moi, dit le prince. Je cherche le tombeau de la cinq fois belle. Est-ce que c'est bien ici ?
Qu'est-ce que ça peut te faire ? Répondit le petit bonhomme, hargneux.
Puis, après une seconde de silence, il se remet à pleurer.
Oui, c'est ici. C'est elle que tu vois là, ma petite sœur bien-aimée. Même morte, elle est restée si belle que, mes frères et moi, nous n'avons pas eu le cœur de l'enterrer pour de bon, ni même de fermer le cercueil.
Chaque jour, je viens ici pour pleurer auprès d'elle. Le prince, à pas de loup, s'approche de la morte. Elle est encore toute belle et fraîche. On dirait qu'elle n'est qu'endormie. Ses cheveux sont cachés dans un beau voile brodé cousu de pièces d'or. Pour mieux les voir, le jeune garçon soulève l'étoffe. « Et là, qu'est-ce que tu fais ?» crie Février furieux. Mais à peine a-t-il dit cela, que le vent se relève et qu'un fort courant d'air fait envoler le voile et l'emporte loin, loin. Alors la cinq fois belle, délivrée du poison, s'éveille. Ses yeux s'ouvrent. D'abord, elle sourit au prince, soulève la tête, lui tend la main. Quelques semaines plus tard, le roi et la reine mère célèbrent dans la joie le mariage de leur fils avec la cinq fois belle. Les 12 mois étaient invités à la noce et pour la première fois, on put voir Février sourire. Depuis ce temps-là, tout le royaume demeure sous sa haute protection, de sorte que personne, même au cœur de l'hiver, ne s'y enrhume jamais. Quant aux 2 grandes sœurs, si la jeune mariée n'a pas voulu se venger d'elles, elle n'a toujours de même que de pousser la bêtise au point de les inviter. Elle s'est contentée de les oublier, tout simplement, et de les laisser vieillir dans leur village. D'après certains conteurs, mais je n'ai pas vérifié, elles se seraient empoisonnées l'une l'autre par jalousie pure au moyen des bijoux contenus dans la boîte. Et comme elles n'étaient que modérément belles, on les a toutes les deux mises en terre comme tout le monde.
Gasparo.
Caviar.
Merlin.
Crustacé.
Merlu.
Flétan.
Ogac.
Morue.
Mustel.
Saumon.
Une mousse d'Irlande.
Crabe.
Loup de mer.
Homard.
Moule.
Dorade grise.
Palourde de mer.
Encornée.
Perche.
Crevette, qui est le sujet de notre merveilleuse histoire, qui vient de Perpignan, en France. Donc, voici donc la crevette enchantée. Il était une fois un pêcheur qui sortait chaque jour avec sa barque pour jeter ses filets dans le fleuve. Cela faisait bien longtemps qu'il n'attrapait plus rien. Et chez lui, il n'avait plus grand-chose à manger. Jusqu'au jour où il pêcha une superbe et très grande crevette. Heureux de sa prise, il se hâta de retirer l'animal des filets. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque la crevette lui parla. C'était une crevette magique. Et elle lui dit « Pitié, pitié, monsieur, ne m'emportez pas. Laissez-moi ici, s'il vous plaît, et en échange, je réaliserai tous vos souhaits. Il vous suffira de venir ici, sur les berges du fleuve, et de m'appeler en criant « Gentille crevette, mon ami, libère-moi de mes soucis !» Et tous tes souhaits seront exaucés. » Le pêcheur, à la fois content et surpris, laissa échapper sa prise et revint chez lui. En arrivant, son épouse, qui était une femme très difficile et jamais satisfaite, lui demanda « Tu reviens encore bredouille, tu n'as rien attrapé !»« Non, mais il m'est arrivé quelque chose d'incroyable !» Et il lui explique sa rencontre avec la crevette magique. Sa femme, d'humeur bougonne, lui dit « Et tu ne lui as rien demandé ?»« Non, je n'ai besoin de rien, moi. »« Comment veux-tu dire que nous n'avons besoin de rien ? Nous n'avons même pas de quoi manger. Retourne immédiatement au fleuve et demande-lui de la bonne nourriture. » L'homme s'exécute. « Gentille crevette, mon ami, libère-moi de mes soucis. » Aussitôt, la crevette apparaît et lui dit « Que veux-tu, pêcheur ?»« Moi, je ne veux rien. C'est juste ma femme qui souhaiterait avoir de la bonne nourriture pour nous alimenter. »« Pas de problème. Dès que tu seras de retour chez toi, vous aurez de la bonne nourriture sur votre table. » Le pêcheur revint chez lui et découvre effectivement des mets délicieux. Un repas somptueux, tel qu'il n'en a jamais vu depuis longtemps. Après le repas, le pêcheur demande à sa femme « Tu es contente à présent ?» Et son épouse, comme à l'habitude, insatisfaite, lui répond « Non, je ne peux être contente. Bien sûr, nous avons de la bonne nourriture, mais je suis si mal habillée, je n'ai pas de beaux vêtements. Retourne en courant au fleuve et dis à la crevette qu'elle me donne des beaux habits. » L'homme, attristé, retourne solliciter la crevette. Il l'appelle « Gentille crevette, mon ami !» « Libère-moi de mes soucis !» Aussitôt, la crevette apparaît. « Que veux-tu à présent ?» lui demande-t-elle. « Moi, je ne veux rien. C'est juste ma femme qui souhaiterait des meilleurs vêtements. Elle n'est pas satisfaite de ses habits. »« D'accord, » répond la crevette. « Alors, lorsque tu arriveras chez toi, tu verras que ta femme aura les meilleurs vêtements qui soient. » En effet, lorsque le pêcheur arrive chez lui, sa femme est devant des étagères, abondées de vêtements. Les plus modernes, de la meilleure qualité, les plus jolies. Là, alors, le pêcheur demande à son épouse « À présent, tu dois être contente, n'est-ce pas, mon amour ?» Mais sa femme, toujours aussi mécontente, lui répond « Non, je ne peux pas être contente. Bien sûr, j'ai des très beaux vêtements, mais je n'ai pas une belle maison. Regarde cette baraque dans laquelle nous vivons. Elle est affreuse. Cours jusqu'au fleuve et demande à la crevette un palais. Je veux un palais avec des serviteurs pour y être heureuse. » L'homme, vraiment peiné de devoir encore réclamer auprès de la crevette, retourne bien malgré lui jusqu'au fleuve et prononce la phrase magique. « Gentille crevette, mon ami, libère-moi de mes soucis !» Aussitôt, la crevette apparaît et, quelque peu agacée par les requêtes du pêcheur, elle lui demande « Que désires-tu à présent ?» Et le pêcheur lui répond « Moi, je ne veux rien. C'est juste ma femme qui souhaiterait un palais avec des serviteurs. Ainsi, elle serait heureuse. » ton retour, ta femme aura ce qu'elle désire. Mais sache que je commence à me lasser de toutes ces demandes.
D'accord, merci bien, merci. Le pêcheur revient chez lui. Et en lieu et place de sa vieille baraque, il découvre un palais et des serviteurs et tout ce que l'on peut désirer dans sa maison. Il demande alors à son épouse si elle est satisfaite. Elle lui répond d'un ton toujours aussi grognon qu'elle ne sera jamais totalement satisfaite que qu'elle pourra commander la lune et le soleil, leur ordonner de se lever ou de se coucher. Les gouverner en somme, ce qui n'était pas très commun. Face à ce nouveau désir, le pêcheur, préoccupé et attristé, se dirige encore une fois vers le fleuve et s'adresse à la crevette. « Gentille crevette, mon ami, libère-moi de mes soucis. » Aussitôt la crevette apparaît et, lassée d'entendre les suppliques du pêcheur, lui demande « Que désires-tu encore ?»«
Moi, je ne veux rien, c'est juste ma femme qui souhaiterait, pour être parfaitement heureuse, pouvoir gouverner le soleil et la lune. Ça, c'est impossible. Et pour punir ta femme d'être si insatisfaite et mécontente, j'ordonne que tout revienne au point de départ. À partir de maintenant, à ton retour, tu retrouveras ton ancienne maison, laide et vieille comme autrefois. Ta femme n'aura que les vieux et horribles vêtements d'avant, et vous n'aurez plus rien à manger. Il sera inutile de revenir me chercher sur les berges du fleuve, car tu ne m'y trouveras plus, et je ne te répondrai plus. Voilà la punition que j'inflige à ta femme pour avoir tout tant réclamé.
Et en effet, lorsque le pêcheur revient chez lui, il trouve son épouse en pleurs, étirée sur les vieux lits de la vieille maison, vêtue de ses vieux habits. Ainsi fut punie cette femme, jamais satisfaite de sa vie.
Dernière histoire.
Il était une fois une souris qui balayait son escalier. Sous son balai, elle trouva une monnaie.
Que vais-je faire de cette monnaie ? Si je m'achète des noisettes, mes quenottes tomberont en miettes. Si je m'achète des cacahuètes, mes molaires tomberont en miettes. Je vais m'acheter des belles boucles d'oreilles et je mettrai à la fenêtre pour voir si quelqu'un de galant me compte fleurette.
Arrive l'âne qui lui dit :
Souris, petite souris, toi qui es si jolie, me voudrais-tu comme mari ? Faites-moi entendre votre voix, lui demande la souris.
La souris s'écrie :
Ah, fuyez, fuyez, vous effrayez toute la maisonnée.
Arrive le cochon.
Souris, petite souris, toi qui es si jolie, me voudrais-tu comme mari, moi qui suis si gentille ? Faites-moi entendre votre voix. Ah, fuyez, fuyez, vous effrayez toute la maisonnée.
Arrive le coq.
Souris, petite souris, toi qui es si jolie, me voudrais-tu comme mari, moi qui suis si gentille ? Faites-moi entendre votre voix. Cocorico ! Ah, fuyez, fuyez, vous effrayez toute la maisonnée.
Arrive le chat.
Souris, petite souris, toi qui es si jolie, me voudrais-tu comme mari, moi qui suis si gentille ? Faites-moi entendre votre voix. Miaou, miaou, miaou. Entrez, entrez, vous égayerez toute la maisonnée. Il entra avec la souris, et une fois dans le logis, d'un bond, le chat la dévora. À vous, qui êtes toujours là, merci de votre écoute. Attentive ou pas. C'était Rully Préfontaine et Thomas Godet-Asselin pour Radio Bec à Chigny. Au revoir.